Je reçois notre invité est en studio et je l'en remercie. Catherine Monroy, bonjour.
Bonjour Pascal.
Merci de nous consacrer quelques minutes en venant nous rejoindre donc à Ribérac, où vous serez ce vendredi 17 juillet pour une séance de dédicace à la librairie L'Arbre à Palabre avec votre ouvrage « Les femmes de l'ombre ». Il y avait eu précédemment un spectacle et là c'est le livre, les deux sont liés.
Oui, les deux sont liés parce qu'en fait, au début, il y a le spectacle. Mmh. Puis d'un seul coup, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt vraiment très important. Et donc, j'ai envoyé mon manuscrit à Alice Tardien des éditions Fanlac, qui a tout de suite dit banco, allons-y. Parce que c'est une maison d'édition, elle est son grand-père qui était un résistant. Mmh. Donc, il y a vraiment, vraiment un intérêt certain pour la chose. Et puis, les femmes, quoi, c'est un sujet... moi, je pensais que ce sujet était complètement traité, un peu galvaudé. Je m'étais dit, bon, après MeToo, on a tout dit sur les femmes. Mais non, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, en fait, assez peu de documentation. C'est-à-dire qu'on ne les avait pas prises en compte. Et puis, elles-mêmes, elles étaient finalement assez modestes. Et elles n'ont pas été réclamées, elles n'ont pas été dire « moi j'ai fait ça ». Voilà, les femmes
ne se sont pas mises en avant.
Non, les femmes, c'est en fait un principe, elles se mettent rarement en avant. Et elles n'avaient souvent pas conscience de faire quelque chose d'extraordinaire, même quand elles le faisaient. Et quand elles le faisaient, elles ont eu toutes les peines du monde à voir leurs actions reconnues, récompensées. Quand on pense à une femme comme Joséphine Baker, qui a dû attendre 15 ans d'avoir la médaille militaire qu'on lui avait refusée.
Parce que ça leur paraît, c'est normal d'effectuer le geste de résistante qu'elle faisait.
Oui, je pense que c'était pour elle, il n'y avait pas d'autre choix. Et ce qui est aussi frappant chez ces femmes résistantes, c'est leur jeunesse.
Quel âge avait-elle ?
Elles ont entre 17 et 25 ans et elles vont comme ça consacrer, elles vont y aller sans réfléchir presque. Et puis aussi, il y a aussi une tradition, pas mal de communistes aussi. Donc beaucoup de gens qui avaient déjà l'habitude d'aider les autres et qui étaient déjà dans un esprit de solidarité. Et puis des femmes sans enfants, par exemple, quand on voit Tamara... Volkonskaya ou Joséphine Baker, c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc elles se lancent aussi peut-être plus facilement que des femmes qui auraient eu des enfants.
Mmh. Est-ce qu'elles suivaient les pas de leur mari peut-être, de leur frère, de leur père? Ou alors c'était vraiment des actions, des décisions propres à elles?
Disons qu'il y a souvent des histoires de famille derrière. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a souvent des grandes familles de communistes qui ont vraiment l'esprit de solidarité chevillé au corps. Et puis on a aussi des... j'ai pas l'impression qu'elles ne savent pas suivre, en fait, c'est vraiment, elles sont dans ce même esprit. Et de toute manière, sans elles, on n'aurait rien pu faire. Souvent, on a juste oublié tout ce qu'elles avaient fait, le support logistique, le fait qu'elles aient caché des gens. Enfin, c'est vraiment... Et puis, il y a des femmes aussi qui d'un seul coup, on a, comme cette institutrice de Saint-Croix de Mareuil, qui, elle, va se mettre à faire passer des gens. Et elle a perdu un enfant dans la précédente guerre. L'enfant n'est pas mort pendant... Enfin, il est mort pendant la guerre, mais pas à cause de la guerre. Et en fait, elle met toute son énergie à aider les gens.
Qui étaient ces femmes? Elles étaient d'un milieu paysan, parce que le département, à l'époque, il est toujours, mais oui. Rural.
Oui.
Donc, milieu de la terre, peut-être oui, plus qu'un milieu urbain.
Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment un milieu rural. Et c'est... effectivement, il y a une terre de maquis. Hein, quand on voit l'histoire de Michel Puyrigaud à Pierre Fiche, c'est des endroits où le maquis n'est pas loin. Donc, il y a vraiment... vraiment l'esprit de village qu'on aurait du mal à retrouver maintenant, mais c'est vraiment, vraiment un esprit de solidarité qui est profond et d'entraide. Et donc, d'un seul coup, c'est de se dire, on résiste. Et je trouve ça génial, c'est d'un seul coup, c'est d'avoir conscience du risque. Parce qu'en ce moment, on peut se dire, il y a des risques comme ça, d'amalgame, de politique, je trouve. Et je n'ai pas l'impression que la jeunesse soit toujours aussi mobilisée que cela.
Vous avez été surprise par, en faisant ces recherches, les actions de ces femmes?
Oui, bien sûr. Enfin, quand on prend par exemple Michel Puyrigaud, avec sa petite bande de jeunes, ils vont couper des fils électriques, ils vont aussi récupérer des armes... Et ils ont comme ça, bien qu'étant restant, pas, ils ne vont pas se battre avec les armes, mais
grâce à des actions de l'ombre,
ouais, tout à fait.
Comment était-elle perçue par les hommes ?
Oh ben je crois qu'il y avait des principes assez d'égalité quand même. En tout cas, chez les communistes, c'est un principe. La femme, elle a une place. On l'a vu après, moi j'ai été journaliste dans les pays de l'Est. Après, il y a quand même cette idée que la femme, elle a la même place que l'homme. Après, bon, il y a eu, ça n'a pas toujours été respecté, mais disons que dans les principes, il y avait une place pour les femmes.
Donc, ces femmes, elles avaient conscience du danger dans les actions qu'elles commettaient. Ou alors, comme les hommes, elles y allaient parce que... Mais il y avait peut-être des hommes qui avaient aussi conscience du danger quand même, parce qu'ils risquaient leur vie, évidemment, tout en étant dans la résistance, dans le maquis.
Oui, tout à fait. Elles ont parfaitement conscience du danger. Après, elles l'oublient quand ça marche bien. Et surtout, elles bénéficient du fait que les femmes, à l'époque, on les prend pour des mineurs. C'est vraiment... Elles comptent pas. Elles comptent pour du beurre. Donc, quand elles passent avec leur vélo, avec des tracts, personne ne va aller... Trop, si elles sont assez habiles, elles arrivent toujours à s'en sortir. Et je pense que Michel Puyrigaud, justement, qui faisait pas mal de... qui fédérait toute la jeunesse du Limousin. Et puis, on a aussi une femme comme... Fernande Daguin, qui fait passer d'abord des Juifs à la ligne de démarcation. Enfin, elle le fait une fois, deux fois, ça marche, elle continue. Elle a compris que les femmes n'étaient pas fouillées... que par des femmes, donc elles s'arrangent pour passer quand il y a des hommes. Donc elles sont assez malignes quand même.
Donc là aussi, il y avait un peu le jeu du chat et la souris, pour les hommes.
Oui, tout à fait. Ça finit pas forcément bien. Hein. Fernande Daguin, elle s'est retrouvée dans des camps, donc ça marchait pas à tous les coups. Mais ça a été, ce qui est très fort, c'est d'un seul coup, c'est cet engagement.
Ouais. Et c'était important pour ces femmes, à ce moment-là, de s'engager. Elles le faisaient politiquement, parce que vous avez parlé des communistes, justement.
Oui, il y avait les communistes, c'était vraiment un engagement. Il y a d'où, par exemple, Fernande Daguin. C'est une branche qui n'est pas communiste du tout, mais c'est pas politique, non. Je pense que c'est vraiment un esprit de solidarité, puis un esprit de, il faut...
De retrouver la liberté,
oui,
aussi.
Oui, on a quelque chose à protéger, et d'en avoir conscience.
La liberté.
Ouais.
Est-ce qu'ils avaient un chef ou une chef ?
Pas toujours, en fait. C'était souvent des actions un peu personnelles, et puis, par exemple, Joséphine Baker, elle se retrouve comme ça, à se cacher dans la lumière... Parce que c'est une star et au début, elle veut s'engager et puis on lui dit, bon, écoutez, là, vous êtes un peu trop visible, madame.
Trop connue, voilà. Déjà, à l'époque.
Oui, déjà trop connue. Et puis on lui dit, justement, c'est parce que je peux aller n'importe où, parce que je suis une star, que je vais pouvoir vous aider. Et elle acquiert ses lettres de noblesse en allant, enquêter, c'est-à-dire la personne qui la recrute et l'atteste. Et en fait, quand il vérifie qu'elle lui apporte les infos qu'il connaît déjà, mais qu'elle a les bonnes infos, il lui fait confiance.
Quelles sont les femmes que vous avez finalement, entre guillemets, rencontrées ? Pas physiquement, malheureusement, mais pour cet ouvrage donc, aux éditions Fanlac, Les femmes de l'ombre.
Il y a plusieurs femmes. J'ai aussi rencontré, donc, il y a par exemple Tamara Volkonskaya, qui est une femme russe, qui va d'un seul coup prendre une part active dans la résistance. C'est une femme ambivalente parce que alors on lui reproche d'être étrangère, d'être une femme légère, et pourtant elle va faire passer des juifs. Elle va aussi à un moment donné soigner des maquisards. Elle va devenir un peu l'égérie des maquisards du Limousin. Donc donc Fernande Daguin dont je vous parlais, Michel Puyrigaud, Noëlla Mallard qui elle se retrouve diriger une auberge par lesquelles passent tous les résistants du Musée de l'Homme, qui est en gros le premier réseau qui s'est organisé. Ils sont pas très prudents, ils vont se faire avoir à un moment donné. Mais voilà, c'est la rencontre. Il y a parfois du hasard, et puis parfois un vrai engagement.
Y a-t-il des secteurs dans le département où ces femmes étaient plus actives que dans d'autres ?
Oh, elles étaient actives dans beaucoup d'endroits, hein, mais ça dépend un petit peu de leur...
Du maquis qui était là, parce qu'il y avait des relations entre elles et le maquis. Elles en ont fait partie, ces maquis, surtout dans la double.
Quand on voit, dans la double, tout à fait, quand on voit Nancette Blanchot, c'est la coquille, donc ça, c'est sa mère et son père qui vont se retrouver tous les deux, son père envoyé dans les camps et sa mère qui va être internée. Mmh. Bah, la mère, elle allait ravitailler le maquis. Son père, en fait, recrutait pour le maquis les jeunes gens qui ne voulaient pas faire le travail obligatoire, le STO. Et donc, elle allait le ravitailler, lui apporter des vêtements. Et donc, elle était extrêmement active. Et c'est elle qui lui a permis, à un moment donné, d'échapper à ses poursuivants, mais ça n'a pas duré. Voilà.
Est-ce que leur famille était au courant de ces actions qu'elle menait ?
Ça dépend. Il y a des familles, c'est toute la famille qui est au courant. Par exemple, effectivement, la famille de Nancette Blanchot, ils sont... pas les enfants, hein, c'est-à-dire qu'on mettait les enfants en dehors de tout ça. Oui, et puis, par exemple, Michel Purgaud dit bien qu'il n'y a que son père qui était au courant. Donc, ils avaient mis en place un système où, en fait, ils se connaissaient 3 par 3, de sorte que si jamais on tombait, tout le monde ne tombait pas.
Il y avait des systèmes différents, des codes différents, parce que c'était des femmes par rapport aux hommes dans la transmission des messages.
Moi, je pense qu'on n'attendait pas la même chose d'elles. Il y en a aussi qui ont organisé, Michel Pirogoy organise la résistance, et puis d'autres qui transmettent des messages, d'autres qui sont passeuses. Donc voilà, c'est agent de liaison comme Joséphine Baker. Donc c'est selon la situation, est-ce qu'elles peuvent apporter à la résistance.
C'est une figure de proue, finalement, Joséphine Baker, dans ces femmes de l'ombre, pour reprendre le titre de votre livre.
Oui, parce que c'est une femme qui est venue en France, qui a certainement quitté un racisme important aux États-Unis, qui vient d'un milieu très pauvre, qui a été mariée à 13 ans. Donc c'est une femme qui a sublimé pas mal de difficultés et qui a petit à petit pris sa place. Enfin, elle épouse un monsieur qui est juif, un industriel juif à un moment donné. Et elle est pas un industriel, pardon, un financier, je pense. Je confonds. Et en fait, elle va elle est engagée vraiment contre le racisme. Et pour elle, le nazisme, c'est inacceptable. Donc elle a une conscience vive.
Mais ça ne diminue pas le rôle des autres femmes, bien entendu.
Ah non, bien sûr que non.
Qui sont importantes. Mais on a oublié, en Dordogne, ces femmes.
Oui.
On a Suzanne Lacor, parce qu'il y a un établissement.
Oui, il y a l'Orgathe.
Il y a l'Orgathe à Périgueux. Mais après, bon, Joséphine Baker, mais... on pense plutôt à l'artiste qu'à la résistante.
Oui, d'arriver en Dordogne, je ne savais pas qu'elle était résistante.
Et il y a une salle d'ailleurs dans le château des Milandes qui a été reconstituée grâce à l'actuel propriétaire. Oui. Donc il faudrait se battre encore pour que des lieux, des rues, peut-être des places, portent le nom de ces femmes, des hommes ont droit à des rues, des places, des monuments.
C'est une excellente idée. En tout cas, pour l'instant, il y a des recherches qui sont faites pour vraiment mettre en lumière. Je pense qu'ils en ont déjà trouvé 200 ou 300 femmes qui ont effectivement participé activement à la résistance en Dordogne. Donc en fait, c'est juste de raconter leur histoire. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est très importante parce qu'elle permet à d'autres, à des jeunes filles par exemple, de s'identifier. Et en fait, quand on a des personnes qui ont été qui se sont engagées, ben ça dit qu'on doit s'engager et qu'on peut le faire. On a besoin d'exemples. Et c'est vraiment ce qui est important. C'est pour ça qu'il faut raconter ces histoires. C'est parce qu'on puisse se projeter, se dire, tiens, cette femme, incroyable ce qu'elle a pu faire. Et, parce que souvent, quand les femmes n'y vont pas, c'est qu'il n'y a pas de précédent. Donc là, c'est important d'y aller.
Est-ce que ça vous donne envie de continuer ces recherches sur d'autres femmes, peut-être, parce que vous n'avez pas pu raconter le destin de toutes ces femmes dans cet ouvrage.
Je raconte le destin de 9 femmes. Ouais. Moi, j'aimerais bien continuer. Mon idée, c'était peut-être de... Parce que le spectacle va continuer à tourner. On va normalement faire un spectacle à Tocane dans pas très longtemps, à la rentrée. Et normalement aussi pour les scolaires à Périgueux. Et mon objectif, ce serait peut-être de changer des personnages selon les lieux pour que chacun puisse s'identifier. Je trouve ça très intéressant. Et puis, de pas toujours parler des mêmes personnes.
Bah oui.
Et c'est vraiment les faire connaître. Voilà.
Est-ce que dans ce secteur qui est le nôtre, donc oui. du Ribéracois, de la vallée de l'Isle, en remontant un peu par la Drône, il y a eu des femmes comme ça emblématiques pendant ce deuxième conflit?
Oh, oui, il y en a plein. Maintenant, j'ai pas tout traité. J'ai essayé de trouver des femmes. D'abord, j'ai mis une petite annonce dans les bons plans du Périgord et on m'a dit tiens, ma grand-mère a fait quelque chose d'extraordinaire. Et comme ça, de fil en aiguille, je suis arrivée de personne en personne. Et voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un travail de recherche à faire. Je pense que les historiens, maintenant, on se met sur l'histoire. Mais voilà, c'est déjà documenter l'histoire de ces femmes. C'est vraiment important.
Et donc, transmettre aux nouvelles générations ces engagements, comme vous le disiez à l'instant. Merci beaucoup, Catherine Monroy, pour ces quelques minutes. Je rappelle que vous serez ce 17 juillet, donc de 10h à 12h30, en dédicace à l'Arbre à Palabre à Ribérac. Mais on peut se procurer cet ouvrage qui paraît donc aux éditions Fanlac dans toutes les bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes librairies, je pense à Brantôme aussi. Ben, y a Et puis sur Internet, bien sûr, les éditions Fanlac sont sur Internet.
Donc on peut aussi le commander.
Tout à fait.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci
donc
beaucoup,
d'autres rencontres peut-être avec ce spectacle, parce que les deux, comme on le disait au début de cet entretien, sont liés finalement.
Oui, puis en fait, ça donne, comme les histoires sont racontées à la première personne du singulier, ça permet vraiment de pouvoir le vivre et de pouvoir vraiment sentir les émotions. Et voilà.
Et une exposition qui devait être présentée au festival Joséphine Maker, autour des femmes dans la résistance.
Tout à fait, une exposition qui est par l'espace des résistances d'hier et d'aujourd'hui, et qui aura certainement lieu à nouveau
en octobre
lors du festival Joséphine Maker.
Parce qu'il a été décalé en raison des conditions météorologiques de l'époque. Merci beaucoup, je rappelle Catherine Monroy, Les Femmes de l'Ombre aux éditions Fanlac. À bientôt.
Merci beaucoup.